Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. Bienvenue dans l'émission Le Monde de la philosophie. Je suis Élie Thoras. Nous allons parler aujourd'hui d'un philosophe du début du XXe siècle assez important, Maurice Blondel. Peut-être peu connu, moins connu en tout cas qu'à une certaine époque, mais tout de même encore influent, on le verra, dans certains courants. Il y a deux mois, vous vous souvenez, nous avions parlé de Jacques Maritain. Aujourd'hui, nous parlons de Maurice Blondel, qui en un sens, lui aussi catholique, lui aussi philosophe, mais d'un tout autre type de philosophie, nous allons le voir, même s'il y a évidemment des ponts possibles. Je suis très heureux d'accueillir pour parler de Maurice Blondel avec vous, le père Nathanaël Garrigue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, curé à Bondy en Seine-Saint-Denis, et vous avez soutenu en janvier 2025, une thèse de théologie intitulée « Le Christ entre histoire et dogme, la logique blondelienne de l'incarnation ». Donc vous êtes un spécialiste de Maurice Blondel. Vous avez aussi publié un livre intitulé « La naissance du Verbe » qui s'inspire de Maurice Blondel. Et votre thèse, je le signale, est à paraître d'ici quelques mois aux éditions du Cerf. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez pouvoir nous éclairer sur cette pensée originale, un petit peu inclassable, de Maurice Blondel. Avant de vous interroger, peut-être quelques éléments biographiques pour nos auditeurs sur Maurice Blondel. Qui est-il ? Il naît en 1861, il meurt en 1949. Il intègre l'école normale supérieure, il passe l'agrégation de philo qu'il réussit après sa troisième tentative. Et en 1893, il publie une thèse qui va très vite devenir célèbre et en faire, en un sens, une figure importante de la pensée contemporaine intitulée « L'action ». Il publie aussi une thèse complémentaire sur le « Vinculum substantiale » chez Leibniz. En 1899, il devient professeur à l'université d'Aix. Et il devient un personnage important, un catholique, assez inclassable, on va le voir. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'il a très vite réfléchi sur sa propre foi et sur la manière dont il devait, comme catholique, penser, mener une œuvre philosophique. On trouve notamment toutes ses réflexions dans des carnets intimes assez, assez beaux, assez émouvants. Il continue son œuvre en publiant en 1896 la lettre sur les exigences de la pensée contemporaine en matière d'apologétique. On va revenir sur le sens de cette lettre assez importante. En 1904, Histoire et dogme, qui est au cœur, Père Nathanaël Garrigue, de vos recherches. Et puis, il publie un petit peu moins, jusqu'en 1932, où il fait son retour notamment avec le problème de la philosophie catholique. Et puis sa trilogie, très importante, dans les années 1930, La pensée, en deux volumes, publié en 1934, puis L'être et les êtres, en 1935, et enfin L'action, là aussi en deux volumes, en 1936 et 1937. Donc une trilogie qui vraiment est son chef-d'œuvre, en tout cas sa pensée la plus mature, la plus aboutie. Et enfin, en 1944, je note un dernier titre tout à fait intéressant, La philosophie et l'esprit chrétien, où il essaie de faire dialoguer, voir ce que la philosophie apporte au christianisme et réciproquement. Et je note aussi l'ouverture, il y a quelques années de cela, de son procès de béatification par le diocèse d'Aix. Il est sans doute une figure intellectuelle catholique très inspirante qui pourrait peut-être lui mériter sa canonisation. Père Nathanaël Garrigue, d'abord une petite question plus biographique. Comment est-ce que vous avez découvert vous-même Maurice Blondel ? Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui ? Pourquoi lui avoir consacré une part importante de votre temps et de votre travail avec cette thèse?
Je commencerai par dire d'abord ce qui m'a rebuté chez lui. Moi, j'ai découvert Maurice Blondel au séminaire parce que c'était un des philosophes les plus influents chez mes professeurs de théologie. Et moi, arrivant, ayant déjà fait de la philosophie avant le séminaire, mais n'ayant jamais lu Blondel, j'ai voulu lire ce philosophe qui avait inspiré mes enseignants. Et ce fut échec sur échec en essayant de lire Blondel. D'abord l'action, j'avais essayé en première année, j'ai repris en troisième année, et puis j'ai suivi un cours sur l'action, et sa pensée s'est vraiment refusée à moi, si je puis dire les choses comme ça. Je ne comprenais pas, je ne voyais pas, ça me semblait abscon. Donc c'est un penseur que j'avais appris à mettre de côté en me disant « bon, c'est une forme d'esprit qui ne me convient pas, je laisse tomber ». Et puis j'y suis revenu plus tardivement, pour une question qui n'est pas d'abord une question philosophique, et c'est d'abord une question qu'on appelle d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation de la Bible, comment lire la Bible, parce que à un moment de... Moi, j'étais déjà prête, mais à un moment de ma vie, puis de mon ministère, j'avais besoin de mieux comprendre le rapport entre l'histoire et la parole de Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir des contradictions? Est-ce qu'on peut juger la parole de Dieu à l'aune de l'histoire? Comment est-ce qu'on peut écrire une vie de Jésus? Est-ce que si on connaît des détails sur la vie de Jésus qui ne sont pas dans l'évangile, est-ce que ça nous donne vraiment accès au Christ? Et voilà, c'est en essayant de travailler ces questions-là que j'ai découvert Histoire et Dogme, un opus majeur de Blondel, écrit en quelques semaines, quelques mois presque, à la fin de l'année 1904, dans son débat avec notamment avec Alfred Loisy. Et moi, ce livre-là a tout à coup été une porte ouverte pour moi, et j'ai compris qu'il y avait vraiment un trésor, me semble-t-il, à puiser chez lui.
Merci pour ce petit témoignage. Si on en vient maintenant à la pensée de Blondel, qu'on va parcourir ses œuvres majeures, les étapes de sa pensée, une pensée qui a vraiment occupé un espace important, qui a évolué. D'abord, peut-être, quelles sont les sources de sa pensée? Quelle est sa formation? Qu'est-ce qui va contribuer à former sa forme d'esprit?
Blondel, comme vous l'avez dit, c'est une pensée originale, inclassable, un peu unique. Il a un côté très autodidacte. Donc quand vous regardez d'abord les citations, il fait une thèse d'État à la Sorbonne sous la Troisième République, et on lui dit quelles sont les citations, les notes de bas de page dans sa thèse. Bon, vous en trouvez deux, et c'est Saint-Bernard de Clairvaux. Donc là, déjà, c'est sûr que c'est compliqué pour essayer de savoir exactement quelles sont ses sources. Alors vous allez dire, regardons un petit peu les auteurs qu'il travaille en même temps. Vous avez dit, il fait sa thèse latine, donc c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Sur Leibniz. Ah, on pourrait dire, formidable, Blondel, disciple de Leibniz, etc. Bon. Quand vous creusez, en fait, il fait des contresens majeurs sur Leibniz, et pour dire les choses, probablement que Leibniz sert surtout de révélateur à la pensée de Blondel. D'ailleurs, Blondel ne travaille pas le Leibniz de la monadologie, ne travaille pas celui du discours de métaphysique, mais celui, comme vous l'avez dit, du vinculum, qui en fait est une question obscure dans la pensée de Leibniz, une correspondance qu'il a avec un père jésuite à propos de la question de la transsubstantiation chez les catholiques. Et dans quelques lettres, Leibniz parle d'un vinculum, c'est-à-dire d'un lien, et en fait, Blondel lisant cela, ça va être un espèce de révélateur pour lui. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs qu'il va citer seront en réalité plutôt des révélateurs que des sources, c'est-à-dire des gens qui vont l'aider à mieux se comprendre. Et je pense que Blondel n'a jamais eu conscience de cela en réalité. Il était persuadé d'être très fidèle à la pensée de Leibniz. Et on pourrait prendre... Je pense que le seul qui a vraiment été une source d'inspiration pour lui, c'est Saint-Bernard de Clairvaux, qu'il a lu, qu'il a médité. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Saint-Bernard de Clairvaux? Eh bien parce que Bernard de Clairvaux avait quelque chose en commun avec Bossuet, qui était aussi une source d'inspiration pour Blondel. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils venaient de Dijon, comme Blondel. Et en fait, Blondel a participé en 1890 à un anniversaire de Bernard de Clairvaux, et il le raconte, et ça a été une révélation pour lui. Et à côté de sa maison natale à Dijon, on voit une grande maison qui s'appelle la maison natale de Bossuet. Et je pense que déjà là, on a une clé de compréhension de Blondel. C'est un auteur du concret, c'est un auteur du terroir en quelque sorte. Et il s'est inspiré des penseurs qui étaient les plus proches de lui. Après ça, les auteurs qu'il est allé chercher, mais c'était déjà un peu après sa thèse en fait, c'est surtout Saint-Augustin, qui évidemment pour une part est la même ligne que Bernard de Clairvaux, qui était un penseur en quelque sorte inspiré, enfin augustinien d'une certaine manière évidemment. Et puis, on pourrait dire après les quelques autres auteurs qui l'ont marqué, par exemple ça va être Newman. Il n'a pas lu Newman, ou peu et tardivement, mais il a ses maîtres à l'école normale supérieure étaient connaisseurs, enfin il y avait Boutroukt et Olé Laprune, connaisseurs de Newman. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est construit dans des dialogues en permanence. Plus que des sources, il établit des dialogues avec des penseurs qui l'aident à se connaître et à se découvrir. Et c'est ça qui fait aussi toute la particularité, la singularité de sa pensée. Je pourrais même terminer en disant qu'en fait, et là vous allez tomber, l'auteur peut-être le plus cité, le plus utilisé dans l'action de Blondel, c'est Alexis Bertrand. Voilà. Et Lily, vous qui êtes ce grand philosophe, je ne sais pas si vous avez déjà connu Alexis Bertrand, qui n'était autre que le professeur de terminale de philosophie de Maurice Blondel, qui lui-même a fait une thèse sur Maine de Biran. Et c'est comme ça aussi que Maine de Biran rentre un petit peu dans la pensée de Blondel.
Alors en 1896, Blondel a 35 ans et il soutient cette thèse à la Sorbonne, l'action. Quel est le sens de cette thèse, de cette œuvre? Quel est l'itinéraire que trace Blondel dans ce grand cheminement qu'est l'action?
Donc l'action 1893. Un ouvrage donc d'abord qui a failli être recalé hein, parce que la forme académique n'allait pas. On lui dit vous pouvez pas faire une thèse sur l'action, vous devez faire une thèse sur l'action chez Aristote ou chez un tel. Et il dit non mais moi j'ai envie de faire une thèse sur l'action. Donc voilà, déjà un peu en but avec évidemment le monde académique universitaire, on le comprend bien. L'action, c'est à la fois la meilleure œuvre de Blondel et à la fois c'est une œuvre de jeunesse, et on peut dire les deux on ne peut pas trancher entre les deux, entre l'œuvre de jeunesse qui marque encore un peu des excès, des fulgurances qui auront besoin d'être un peu corrigées, arrondies par la suite, et en même temps l'œuvre la plus géniale d'un auteur parce qu'elle contient vraiment toute la sève de sa pensée. On sait qu'il y a 7 rédactions différentes. Donc cette fois, il reprend ses trucs, ses textes, il ne sait... Alors, voilà. Alors l'action, ça parle de quoi? Eh bien l'action, on pourrait dire, c'est une espèce de phénoménologie de la volonté, c'est-à-dire une recherche du phénomène de la volonté dans l'esprit humain. Et Blondel va essayer de résoudre une question toute simple, hein, qui est la question qu'il pose au début de ce texte, oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens? Et l'homme a-t-il une destinée? On pourrait dire les choses autrement, c'est est-ce que l'action que je pose, elle est destinée à mourir, à être limitée, ou bien est-ce qu'il y a déjà un appel du transcendant dans chacune de mes actions? Et donc Blondel va parcourir tout le chemin de l'action humaine, depuis la sensibilité, donc c'est le tout début de la troisième partie, la sensibilité, comment est-ce qu'il y a déjà de la dualité dans la sensibilité? Pour dire, mais en fait, le niveau du sensible ne se suffit pas à lui-même. D'ailleurs, il y a une espèce de, voilà, il y a une dualité, il y a une opposition dans le sensible, et j'ai besoin de passer au niveau supérieur pour assumer. Voilà. Et donc, Blondel, en fait, va déployer comme ça toute l'action humaine depuis là où il y a le moins d'action. Enfin, je veux dire, voir, sentir, c'est pas encore vraiment poser une action, hein, parce que la volonté n'est pas vraiment encore engagée. Mais il va aller de là jusqu'à la dimension de la science, et puis après, il va s'envoler avec la métaphysique, la morale. Passera même par les questions de politique internationale, en se posant toujours cette question, est-ce que l'homme peut se contenter de ce niveau-là? Et en fait, à chacun de ces niveaux, il dit non, il y a un appel à un niveau supérieur. Là, c'est vraiment le cœur de la pensée de Blondel, jusqu'au moment où il arrive, il y a une option. Je dois opter pour ou contre la vie de l'action. Et donc, il dit, bah, soit, en fait, j'opte pour une option autosuffisante, et c'est-à-dire, donc c'est la pure autonomie, je me suffis à moi-même, il y a dans mon action suffisamment, et il y a dans mon action, il y a ce que j'ai émis, mais il n'y a rien de plus. Et Blondel appelle cela la mort de l'action. Ou alors il y a une deuxième option, c'est que l'homme se dessaisisse de lui-même, qu'il accepte, qu'il admette qu'il ne peut pas s'achever par lui-même et qu'il a besoin d'un autre pour être déployé et achevé. Alors c'est la mort à soi-même. La mort de la volonté, mais c'est aussi l'achèvement possible de l'action. Et donc ça ouvrira la dernière partie de cette thèse, donc la cinquième partie, sur en fait l'action religieuse, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu peut intervenir, entrer en relation avec mon action pour la mener à son terme. C'est évidemment une thèse de philosophie, on est sous la Troisième République, dans l'université très dominée par Kant, enfin le néo-kantisme en tout cas, qui évidemment est tout à fait réfractaire à ce genre de pensée. Donc Blondel est évidemment très prudent dans sa manière d'affirmer. Il ne parle pas de Dieu, il parle de l'unique nécessaire. C'est donc évidemment une manière d'adapter un langage philosophique et un langage évangélique, n'est-ce pas, hein? L'unique Dieu, tu as choisi c'est ce que Jésus dit à Marthe, il faut choisir la meilleure part, la part nécessaire, l'unique nécessaire, et c'est évidemment un mot de la métaphysique. Et donc voilà, l'action, ce sera cette grande interrogation posée à l'homme contemporain de Blondel. Crois-tu que tu peux te suffire, ou bien penses-tu que tu as besoin d'un autre pour mener ton action à son terme?
Et donc le fruit finalement de cette méditation, c'est de montrer pour Blondel qu'il y a comme une exigence du surnaturel, dit-il. Je ne peux accomplir mon action, je ne peux m'accomplir moi-même que si je reçois d'en haut, donc de quelque chose qui dépasse ma nature, qui dépasse la nature, qui est proprement surnaturel. Et donc il montre de l'intérieur que finalement nous avons besoin de quelque chose de plus grand, et il me semble que cette exigence du surnaturel lui a valu beaucoup de critiques, notamment pendant sa soutenance. Finalement on lui a demandé, est-ce que vraiment ce que vous faites c'est de la philosophie, est-ce que c'est pas plutôt de l'apologétique, c'est-à-dire un cheminement rationnel qui montre que nous avons besoin finalement de croire en Dieu et de se tourner vers le transcendant. Pour vous, est-ce que l'action relève vraiment de la philosophie? Est-ce qu'il n'y a pas une part d'apologétique dans ce qu'il fait?
Je pense que c'est indissociablement une œuvre philosophique et une œuvre apologétique. Mais il faut distinguer, me semble-t-il, le contenu de l'œuvre de son intention. Pourquoi Blondel fait-il de la philosophie? C'est ça la question. Blondel fait de la philosophie parce qu'il comprend que c'est là que Dieu le veut dans l'université française pour témoigner, on dirait peut-être même aujourd'hui évangéliser ses contemporains. Blondel avait voulu être prêtre, il a fait une retraite, il a fait les exercices spirituels pour demander au Seigneur quelle était sa volonté. Et au cours de cette retraite, il a compris que Dieu l'appelait à exercer son sacerdoce baptismal, comme on dirait à partir du Concile Vatican II, il a appelé à exercer son sacerdoce baptismal comme enseignant à la faculté, que c'est de cette manière-là qu'il le servirait. Et donc c'est évident que l'intention blondelienne, elle est éminemment apologétique ou missionnaire. Ce qu'il désire, c'est de rendre la révélation accessible aux hommes de son époque. Une fois qu'on a dit ça, l'œuvre blondelienne et l'action en tout premier lieu est éminemment philosophique. Et je pense qu'il est d'une immense probité intellectuelle pour ne jamais faire rentrer par la fenêtre des arguments théologiques ou de la révélation chrétienne alors qu'il assume faire de la philosophie. C'est un homme de la frontière, peut-être qu'on y reviendra dans les questions, mais c'est un homme de la frontière. Donc la frontière, elle n'est pas toujours facile à tenir. J'ai eu l'occasion récemment, dans le cadre du procès en béatification, de rencontrer le père Claude Troisfontaine. Je suis allé voir donc un vrai spécialiste de Blondel, pas comme moi, un vrai spécialiste qui l'a travaillé pendant 50 ans. Et quand on lui a demandé quelle était, selon lui, la plus grande vertu humaine ou intellectuelle de Blondel, il nous a répondu la probité. Et c'est vraiment un homme de la rigueur. Et quand on lit des textes de Blondel, on se rend compte combien il est exigeant avec lui-même, exigeant dans la rationalité philosophique. Et combien d'ailleurs il reproche souvent à ses contemporains catholiques de faire des raccourcis en n'acceptant pas de faire tout le détour et la marche pas à pas de la philosophie. Et on voit d'ailleurs, par exemple, dans ce que je viens de dire à propos de l'action, combien il accepte une marche pas à pas, à pas lents, pour aller d'un point A à un point B. Et de ce point de vue-là, je pense que l'action est, à mes yeux, en tout cas un modèle ou du moins une source d'inspiration pour les philosophes catholiques.
Quelques années après l'action, Maurice Blondel publie une lettre assez fameuse, qui est en fait un vrai livre, hein, Lettre sur les exigences de la pensée contemporaine en matière d'apologétique, où il revient donc sur cette difficulté, comme il se trouve à la frontière, en effet, entre philosophie et religion. Quel est le sens de cette lettre sur l'apologétique et quel est en particulier ce qu'il nomme à ce moment-là, c'est la méthode d'immanence qu'il essaye de mettre en œuvre?
Alors ce texte, donc, 3 ans après la thèse, est une continuité de la thèse en réalité. C'est-à-dire que quand Blondel publie sa thèse, les théologiens catholiques l'adoubent en disant « oui, c'est bien, il est des nôtres », etc. Alors que l'université dit « non, mais c'est un crypto-théologien, donc il n'est pas vraiment des nôtres ». Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de recensions de la thèse de Blondel qui vont faire son éloge. Mais lui ne va pas du tout se reconnaître dans la manière dont on fait son éloge. Il s'est souvent senti trahi par ceux qui le louaient. Voilà. Et donc il dit « il faut que j'explicite ma pensée ». Et donc 3 ans après, il publie sur toute l'année 96, une fois par mois à peu près, en 6 numéros, ce texte donc, qu'on appelle parfois de manière un peu raccourcie la lettre sur l'apologétique. Cette lettre, on peut la considérer comme le discours de la méthode de Blondel. En fait, voilà, l'action, il livre sa pensée, 3 ans après, il dit « mais en fait, comment est-ce que j'ai travaillé ?» Et vous avez raison, le cœur de ce qu'il va développer là, c'est la méthode d'immanence. Cette méthode d'immanence, encore une fois, elle a été mal comprise. C'est intéressant de vous lisez la correspondance de Blondel et qu'il décortique ce que les gens disent, mais il dit « mais est-il possible de ne pas voir que j'ai exactement le contraire de ce que les gens disent ?» Qu'est-ce que c'est que cette méthode d'immanence ? La méthode d'immanence, c'est un petit peu ce qui avait été déployé dans la thèse de l'action, évidemment, c'est de dire, en fait, à chacun des niveaux de l'être humain, que ce soit la sensibilité, alors on va dire 3 grands niveaux, enfin, sensible, intellectuel et spirituel, mais on va prendre les 2 premiers niveaux, à chacun de ces niveaux, eh bien, il y a déjà le niveau supérieur qui est présent. Et ça veut dire que la méthode d'immanence permet, pour Blondel, de percevoir la manière dont Dieu est déjà agissant à l'intérieur de la volonté et de l'intelligence humaine. Alors lui, il est plus un penseur de la volonté que l'intelligence, il le déploiera plus tard, on verra, dans les années 30, avec la pensée, mais en tout cas, c'est d'abord un penseur de la volonté. Et là, il va montrer comment la volonté humaine, elle est déjà transie par la présence de Dieu. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que il se bat contre les apologètes de son époque, et contre toutes les récupérations. Donc, dans cette lettre, il commence par démonter toutes les apologétiques. De l'apologétique la plus extérieure, la plus froide, on pourrait dire celle de Loisy, c'est-à-dire qui consiste à essayer de plaquer des faits historiques sur la révélation, jusqu'à la méthode qui est celle même valorisée par l'abbé Denis, qui est celui qui lui donne la plume dans les annales de philosophie de l'époque, qui est la méthode la plus psychologique. Donc, oui, de la méthode la plus subjective à la méthode la plus objective, en fait, Blondel essaie de démonter chacune de ces méthodes, et lui, je dirais que le cœur de son apologétique, que l'on voit là, mais qu'on voit déjà en fait dans Histoire et Dogme de manière plus succincte, c'est de dire c'est la correspondance entre les événements extérieurs et les événements intérieurs. Il veut travailler le fait que si je ne crois en Dieu que parce qu'il y a des faits extérieurs, en fait, Dieu n'a pas habité mon intériorité. Donc il y a une espèce de violence où je suis obligé de croire parce que je vois un miracle eucharistique dont je suis obligé de croire. Mais quel va être le cheminement de ma volonté pour adhérer à ce miracle? Ça, Blondel, il dit, voilà, une apologétique, on va dire, purement extérieure, ne le voit pas, donc c'est un manque. Mais, au contraire, une apologétique purement intérieure qui dirait, bah, c'est, Dieu existe parce que tu le sens, parce que c'est comme ça, etc., en fait, ne rendrait pas compte de la dimension rationnelle, objective de la révélation divine. Et pour Blondel, hein, ce qui est important, c'est la coïncidence, la correspondance entre l'objectivité de la révélation de Dieu, que ce soit dans l'histoire sainte, que ce soit aujourd'hui encore à travers les miracles, qui sont des miracles, c'est une question très débattue à l'époque de Blondel. En tout cas, à travers ces questions-là, comment est-ce que là, il y a correspondance avec mes désirs intérieurs, avec mon élan intérieur, ce qui fait que ce que Dieu dit à l'extérieur vient rejoindre mes attentes intérieures, et ainsi Dieu ne s'impose pas de l'extérieur à moi, mais je peux le choisir librement, parce qu'il correspond, il est en adéquation avec l'élan de ma volonté intime.
Donc ça, c'était la méthode d'immanence que Blondel a mise en œuvre. Si maintenant nous continuons à parcourir son œuvre, en 1904, on l'a dit, Blondel publie Histoire et Dogme, donc là encore, qui est un approfondissement de toutes ces questions. Et dans cette œuvre en particulier, il va traiter le rapport entre la philosophie et la théologie, entre l'histoire et le dogme, tous ces grands dualismes de l'époque. Dans Histoire et Dogme, comment est-ce que Blondel essaye précisément de concilier ces deux termes, histoire et dogme?
Eh bien, donc d'abord, c'est intéressant de poser les choses dans ces termes-là. Donc, histoire, c'est l'histoire sainte, mais à l'époque de Blondel, c'est aussi et surtout l'histoire scientifique, l'histoire des historiens. C'est le maître mot de Loisy, Alfred Loisy, donc ce prêtre catholique qui, quelques années après, sera excommunié. Bon, dont la pensée est complexe. Mais qui en tout cas, est, aux yeux de Blondel, est problématique car il essaye de juger la théologie à l'aune de l'histoire. Ça, c'est le reproche que Blondel lui adresse, c'est de vouloir faire de l'historien, en fait, l'homme de la vérité, au point que l'historien devrait pouvoir juger de la théologie, et comme l'historien ne peut rien dire de la conscience divine du Christ, en fait, Blondel reproche à Loisy, finalement, de nier la divinité du Christ. Et puis, il a face à lui des théologiens qui n'ont pas encore appris en fait à travailler avec la science historique et pour qui en fait la théologie devrait juger de tout et les théologiens devraient dire aux historiens quel type de pierre ils devraient découvrir dans le désert, enfin en quelque sorte, vous voyez. Et donc c'est un peu cette opposition frontale que Blondel essaye de dépasser, mais en faisant droit à ce qu'il y a de vrai et de juste dans chacune de ces deux polarités, de ces deux réalités. Donc il y a une autonomie de la science historique et la science théologique. Et il est important que l'histoire exerce son œuvre, que les historiens puissent travailler. Nous avons besoin d'eux, comme évidemment, les théologiens sont nécessaires à la foi de l'Église. Et Blondel va essayer d'opérer la communion de ces réalités à travers le plan supérieur et ce qu'il va appeler la tradition. Donc là, c'est intéressant parce qu'évidemment, il va retravailler un terme qui est un terme très classique, très traditionnel dans l'Église, n'est-ce pas, celui de tradition, mais il va lui donner une profondeur de champ bien plus ample à partir de sa philosophie de l'action, en comprenant que la tradition, n'est pas que un souvenir, que la mémoire, que l'empreinte du passé, mais que la tradition est une donnée vivante, créatrice, et qu'elle est aussi la préparation de l'avenir, que, en quelque sorte, on pourrait dire, la tradition, c'est la vie de l'Église. Et donc, c'est dans la vie de l'Église que l'histoire et le dogme se trouvent synthétisés dans ce qu'ils ont de meilleur, et c'est à travers la vie même de l'Église que l'on va pouvoir concilier ces deux approches. Et donc, c'est ça que Blondel essaie de développer dans « Histoire et dogme », donc un texte probablement majeur de Blondel, un texte assez court, dont un de ses amis, Victor Delbos, dira là, c'est intéressant, il dit là, Blondel a vraiment réussi à trouver quelque chose. Là, c'est vraiment du très bon Blondel. Victor Delbos, qui est pour le coup vraiment un historien de la pensée, un historien de la philosophie, donc vraiment quelqu'un d'une très très grande rigueur. Et c'est intéressant que là où Blondel est le plus proche de l'interaction entre philosophie et théologie, eh bien vraiment un philosophe de métier 100% pur jus, puis dire là c'est vraiment du très très bon Blondel et de la très bonne philosophie.
Dans votre thèse, vous développez beaucoup la question du Christ chez Blondel. Je rappelle l'intitulé « Le Christ entre histoire et dogme, la logique blondelienne de l'incarnation ». Comment est-ce que le Christ entre en philosophie chez Blondel ? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut donner un rôle proprement philosophique au Christ ? Et quel est ce rôle que Blondel lui fait jouer ?
C'est évidemment une immense question, parce que dans Blondel, il dit, moi en fait, ce qui a été déterminant, c'est la christologie, c'est la rencontre du Christ, c'est le mystère de l'incarnation. Il écrit une très belle lettre à Théaire de Chardin en 1919, où il relit son histoire, il dit, au début de tout, au primat de tout, il y a eu cette rencontre du Christ, la personne du Christ, comme élément moteur de ma vie, de ma pensée. Alors évidemment, la question c'est comment est-ce que c'est possible après de développer ça en théologie, en philosophie. Je souligne un point que j'ai trouvé très intéressant, c'est que, donc, je vous l'ai dit, au moment où Blondel soutient sa thèse, on lui reproche un petit peu d'importer en philosophie des schémas théologiques. Et pour moi-même, quand j'ai préparé ma thèse de théologie sur Maurice Blondel, une des idées qui avait cours à l'université, donc c'était pas si longtemps que ça, quelques années, c'était que Blondel avait pu importer en théologie des idées philosophiques. Et donc c'est intéressant, c'est de voir que dans les deux cas, il y avait une espèce de reproche un peu symétrique de dire, sans le dire, sans le vouloir, en fait, vous importez dans notre domaine des champs, enfin des idées, des schémas qui viennent d'un autre domaine. Je pense que ce sont des reproches qui sont inévitables pour quelqu'un qui essaye d'être à la frontière. Alors, de quelle manière est-ce que Blondel a pensé le Christ ? Donc, c'est quel sens cela a-t-il de parler d'une christologie philosophique ? Eh bien, je pense qu'il faut partir donc de l'idée philosophique qui a fait place au Christ. Blondel est un penseur de la médiation. Je vous l'ai dit, hein, il fait sa thèse latine sur Leibniz, sur le vinculum, c'est-à-dire le lien. Et c'est cette question du lien qui va obséder Blondel. Mais le lien entre les hommes, mais d'abord par exemple le lien entre l'âme et le corps, le lien entre le visible et l'invisible, le lien entre la nature et le surnaturel. Comment toutes ces réalités-là, comment réussir à penser l'entre-deux de toutes ces réalités-là qui paraissent absolument inconciliables, et pourtant conciliées dans la réalité. Et donc, ce qui va apparaître chez Blondel, c'est la pensée d'une médiation, et peut-être plus encore, la pensée d'un médiateur. Il faut, dit-il, qu'il y ait un médiateur pour faire le lien entre les phénomènes et l'être, par exemple. Eh bien, c'est cette pensée du médiateur qui va en creux dessiner la place pour un médiateur autre qui sera le Christ. Et il me semble que c'est à partir de ce besoin repéré en philosophie d'une pensée de la médiation qui aboutit au besoin d'un médiateur entre des réalités qui sont conjointes dans la réalité mais inconciliables du point de vue de la pensée, que se loge la place pour quelqu'un que la tradition spirituelle et religieuse appellera le Christ. Alors, un certain nombre de commentateurs vont dire que c'est une christologie purement philosophique. Qui ne fait jamais appel à la révélation, etc. C'est purement philosophique. C'est une ligne d'interprétation qui est développée notamment par le père Thiette, qui est un excellent commentateur de Blondel, me semble-t-il. Pour ma part, j'ajouterais qu'il y a des moments proprement de théologie christologique chez Blondel, et notamment dans Histoire et dogme, qui n'est pas un texte destiné à l'université, qui n'a pas la rigueur et les besoins d'un texte académique. Il y a des moments plus confessants, évidemment, dans Histoire et dogme. Et puis, c'est évident que, je vous l'ai dit, il reproche à Loisy dans leur correspondance privée, parce que Blondel va essayer de ramener un peu Loisy sur le bon chemin, si je puis dire, en essayant de l'aider à confesser sa foi au Christ. Mais donc, c'est bien la conscience divine du Christ qui va mouvoir toute la pensée de Blondel à ce moment-là. Or ça, c'est pas une œuvre philosophique. C'est aucun philosophe ne va vous expliquer que le Christ a cru en sa divinité. Enfin, c'est pas un argument philosophique, mais c'est un fait de la foi catholique. Et donc de ce point de vue-là, il y a bien un moteur dans Histoire et dogme, qui est une œuvre un peu à part, parce que c'est une œuvre qui va donc amener, je vous l'ai dit, le concept de tradition, qui est quand même un concept hautement déjà théologique et pas que philosophique. Et donc là-dessus, on va vraiment avoir une christologie, je pense, davantage théologique. Et donc, je terminerai en disant que c'est vraiment le mot de tradition qui est intéressant, parce que Blondel le retravaille, et c'est un terme qu'il va à la fois donc travailler à partir de sa philosophie de l'action, mais qui est un terme éminemment théologique, et c'est ainsi que Blondel l'accueille.
Faisons une très courte pause et nous nous retrouvons pour parler de Blondel.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie dans l'émission Le Monde de la Philosophie. Je vous rappelle au passage que Radio Courtoisie ne vit que de dons. Merci donc pour votre générosité. Nous parlons aujourd'hui avec le père Nathanaël Garrigue de la philosophie de Maurice Blondel. Nous avons parcouru une partie de son œuvre. J'aimerais peut-être faire une petite incursion un petit peu moins philosophique dans les questions politiques. Blondel a notamment ferraillé contre l'Action française, très influente à son époque. En quelques mots, quelle était la critique que Blondel adressait à l'Action française ?
Il reprochait à Maurras sa conception du surnaturel, qui était un surnaturel purement imposé de l'extérieur. Donc ça, c'est dans un texte, en 1910, qu'il écrit pour les Semaines sociales catholiques, où il va retravailler la question du surnaturel en disant mais il faut bien qu'il y ait, comme je vous le disais à propos de l'apologétique, il faut bien qu'il y ait une adéquation entre le surnaturel et moi, sinon le surnaturel me fait violence. Et donc il faut bien qu'il corresponde à ce que je suis, au mouvement de ma volonté. Et donc il va reprocher à Maurras une conception du surnaturel qui a deux caractéristiques, c'est qu'elle est extérieure à moi, elle n'a pas d'adéquation avec ce que je suis. Dieu pourrait dire n'importe quoi, ça, à la limite, peu importe. Et puis surtout, donc c'est un surnaturel extérieur et supérieur. C'est-à-dire, il arrive toujours par en haut et il n'y a pas de germination par en bas du surnaturel. Or, pour Blondel, il est important, enfin encore une fois, que les deux mouvements se rejoignent. Il était là-dessus très mal compris, on l'a accusé d'immanentisme, c'est-à-dire de ne pas croire au surnaturel, d'imaginer que le surnaturel pouvait être gérer spontanément, par en bas, par la nature. Alors il s'est opposé toute sa vie à ça, notamment contre Loisy. Voilà. Et donc après ça, il va reprocher finalement à Maurras d'avoir une conception politique calquée sur l'ordre du surnaturel, et donc avec un politique purement extérieur et purement supérieur, et donc ne permettant pas, si je puis dire, la participation des êtres humains avec tout ce qu'ils sont au mouvement politique.
Si nous revenons maintenant à la philosophie plus directement, un autre élément important, c'est l'intervention de Blondel dans la querelle sur la philosophie chrétienne dans les années 1930. Donc un débat anime l'université française, notamment la Société française de philosophie, sur l'idée de philosophie chrétienne. Est-ce qu'il y a une philosophie chrétienne ? Dans quelle mesure une philosophie peut s'inspirer du christianisme ? Est-ce qu'elle reste dans ce cas-là philosophie ? Voilà, c'est un débat qui oppose par exemple Étienne Gilson et Émile Brayer. Et Blondel intervient dans cette question, d'abord par une lettre qu'il envoie à la Société française de philosophie, mais aussi ensuite en écrivant un opuscule, Le problème de la philosophie catholique. Comment est-ce que, donc, dans les années 30, où Blondel a approfondi sa pensée par rapport aux années 1890, comment est-ce que Blondel, à cette époque-là, pose le problème ? Comment est-ce qu'il le résout ? Et dans quelle mesure peut-il y avoir pour lui une philosophie catholique ?
Donc effectivement, en 32, Blondel publie ce livre qui en fait est en grande partie une réédition et un commentaire de la lettre sur l'apologétique de 96 qu'il republie, qu'il commente. Je dirais que les spécialistes de Blondel sont assez unanimes pour dire que c'est pas le meilleur Blondel, que c'est un texte qui est publié un peu rapidement, qui est un peu obscur encore, même pour ceux qui ont trouvé que d'autres textes obscurs et qui ont fini par trouver une lumière dedans. La pensée de Mandel n'est pas très claire, je trouve. À ce moment-là, de fait, lui, sa pensée, c'est de dire, faut pas une philosophie chrétienne, mais une philosophie catholique, mais sans qu'on comprenne exactement quelle nuance il veut mettre entre chrétien et catholique à ce moment-là. Et parfois, voilà, c'est intéressant parce que même, par exemple, un Lubac, qui est donc Henri de Lubac, qui a vraiment été, qui a reçu la pensée de Blondel du début à la fin, qui dit vraiment, c'est vous qui avez été mon maître, histoire et dogme, l'action, ces choses importantes. Il ne cite pas ce texte-là dans ce qu'il doit à Blondel. Et quand il va publier un petit opus où il essaie de reprendre les différentes positions, en fait, de manière assez étonnante, c'est pas tellement sur celle de Blondel qu'il va s'intéresser à ce moment-là. En disant finalement, il y en a d'autres qui sont plus pertinentes, notamment Gabriel Marcel. Voilà. Donc, je pense que un auteur a le droit d'avoir des coups de mou aussi. Hein. On n'est pas tous, c'est pas une machine, on n'est pas toujours au top de la forme. Et à mon avis, je n'ai pas très bien le dossier historique. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il réagit très vite? Parce que le texte de Briey de 31, lui, il publie en 32, donc ça va quand même assez vite. Il faudrait regarder quelle connaissance il a de quel texte, est-ce qu'il a lu Maritain, est-ce qu'il a lu Gilson, comment est-ce qu'il va intervenir à ce moment-là. Voilà. Je pense que la question elle sera reprise la plus pertinente dans un dernier ouvrage que l'on n'a pas cité tout à l'heure, donc pour cause est publié juste après sa mort, qui s'appelle Les exigences philosophiques du christianisme. Et donc là, c'est un ouvrage qui est publié quelques semaines après la mort de Blondel, mais qui reprend une pensée en fait beaucoup plus ancienne. Puisqu'il dit c'est le dernier livre publié, mais c'est le premier du point de vue de l'intention. Et donc en fait, et là, c'est la grande question de ce qu'il appelle l'esprit chrétien, qui en fait le met en mouvement dès l'époque de la crise moderniste. Et donc là, et oui, il y a un rapport à la philosophie qui est beaucoup plus ample, et il va faire notamment des détours pour analyser la révélation chrétienne. Voilà. Et puis les besoins de l'homme pour que la révélation chrétienne vienne en épouser le mouvement. Voilà. Donc je dirais qu'à mon avis, le meilleur du rapport entre philosophie et théologie chez Blondel, ou de la question de la philosophie même catholique, comme il l'appelle, ne se trouve pas dans ce texte-là, mais dans ce qui est bien avant et après.
Les années 30 sont aussi l'occasion pour Blondel de livrer au public sa trilogie sur laquelle il a beaucoup travaillé. Donc trilogie qui contient trois volumes, comme son nom l'indique, la pensée, l'être et les êtres et l'action, qui sont à chaque fois de gros volumes. Est-ce que Blondel se renie en quelque sorte, c'est-à-dire il réécrit l'action parce qu'il finalement il trouve que ce qu'il avait dit en 1893 n'était plus suffisant? Est-ce qu'il s'approfondit, il se comprend mieux, est-ce qu'il s'exprime mieux? Quel est le rapport de cette trilogie avec son œuvre antérieure, rupture ou continuité?
Donc il faut bien imaginer avoir un tout petit peu de contexte historique pour comprendre ce truc. Donc Blondel, quand il publie l'action, il est loué par bien des hommes dont lui ne reconnaît pas du tout, ne se reconnaît pas dans les éloges qui lui sont faits. Et il comprend que il y a de grosses contre-interprétations de l'action, et c'est pour ça qu'il ne veut pas republier l'action. Parce qu'il dit même, on a fait de moi un philosophe de l'action, mais moi je suis un philosophe du concret. Et si j'avais d'abord publié un livre sur les fleurs, on m'aurait pris pour un philosophe des fleurs, quoi. Enfin, en gros, c'est ça. Et donc, comme j'ai commencé par l'action, bon, voilà. Et donc, c'est important pour lui de resituer l'action dans un cadre plus large. Donc ça c'est un aspect. Un deuxième aspect qui est important de savoir, c'est qu'il est devenu aveugle progressivement, et à partir de 27, il ne peut plus lire. Et ce qui est sûr, c'est que autant dans l'action, la première action, il est complètement en phase avec toute la science de son époque, l'ébullition intellectuelle de son époque, autant 30, 40 ans après, quand il republie l'action, quand il écrit sa trilogie, c'est plus un monsieur qui relie ses papiers, etc. Donc le rapport au monde est un peu différent aussi. Voilà. Et puis ce qui s'est passé entre les deux aussi, c'est, il faut le dire, la violence de la diatribe des théologiens contre lui. Alors lui n'a pas toujours été fin dans sa manière d'écrire, c'est sûr, et en même temps il a été extrêmement blessé par ces théologiens qui l'ont voué aux gémonies. Mais il faut le dire de manière violente. Je vous livre un petit truc, mais par exemple, donc, sa femme, par exemple, quand il lui arrivait que des prêtres lui disent si votre mari ne change pas d'avis, en fait, vous allez tous les deux aller en enfer. Et il faut imaginer ce que c'est qu'un prêtre qui dit ça à une catholique qui essaie de bien faire. Enfin voilà. Donc il faut imaginer la violence de la réaction des théologiens contre lui. J'espère que nous montrerons ça dans la biographie qui paraîtra bientôt, je l'espère. Nous sommes quelques-uns à travailler dessus. Donc il faut avoir tout ça en tête pour bien comprendre la trilogie. Alors la trilogie, c'est à la fois mieux et moins bien que l'action. C'est à la fois un prolongement et à la fois une petite rupture. C'est beaucoup plus lisse du point de vue des attentes des théologiens. Entre les deux, Blondel aussi a lu saint Thomas d'Aquin, qu'il n'avait pas lu quand il a écrit l'action. Il a mis saint Thomas d'Aquin au programme de ses cours. Il est celui qui a introduit saint Thomas d'Aquin dans l'université en France, l'université publique en France. Donc il a aussi, voilà. Donc il y a un côté plus rond dans son expression, dont je trouve qu'il est toujours un peu indiscernable de dire si ce côté plus rond est à la fois une prise de conscience que dans sa jeunesse il y avait des excès, si c'est parce que ça correspond vraiment à l'évolution de sa pensée, si c'est parce qu'en fait il a peur de se prendre encore des coups de bâton, voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, l'action, c'est un chef-d'œuvre d'un vieux monsieur. C'est un chef-d'œuvre parce que d'abord dans la pensée, donc il commence par la pensée en 34. Pour certains disent c'est le plus grand livre de Blondel, La Pensée. Il va enfin s'affronter à la question de l'idéalisme, à la question de comment la pensée pense, pensée pensante, et il va montrer à chaque fois l'inachèvement de la pensée, la dualité de la pensée. La pensée est elle-même duelle, et elle va, il faudra penser, réussir à unifier la pensée, et bon, ça ce sera la suite. Donc La Pensée est évidemment un des chefs-d'œuvre de Blondel où il pense enfin ce qu'est pensée. Ensuite vient L'Être et les Êtres, en 35, qui est donc son traité de métaphysique, d'ontologie finale, et seulement après, alors il republiera l'action en deux volumes. Le premier volume, qui est entièrement nouveau, où il repense l'action, enfin il repense, il approfondit, et le deuxième volume, qui est plus ou moins une réédition du texte de 93. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il a voulu mettre un contexte à sa pensée. Il n'a pas voulu être le penseur de l'action, il a voulu être le penseur du concret, et il a voulu montrer comment est-ce que la pensée humaine, enfin la métaphysique chrétienne, doit s'appuyer sur trois pôles, hein, qui sont à la fois donc la pensée qui va être, on va dire, le fort de l'idéalisme, l'être qui peut être le fort des réalistes, et puis lui qui met l'action comme un trait d'union entre les deux, montrant à la fois la limite, enfin la nécessité et la limite des positions réalistes et idéalistes pour les appeler à quelque chose de supérieur.
Peut-être quelques mots sur l'être et les êtres. Quelles sont les grandes lignes de force de son ontologie à cette époque-là, ce qu'il avait moins travaillé auparavant. Quelle vision de la métaphysique est-ce que Blondel a ?
Ce texte est à mes yeux à la fois le moins blondélien, le plus blondélien. Le moins blondélien par rapport à l'action, parce que la place de l'être humain n'y est pas, enfin, il est très secondaire. Il va s'opposer par exemple au personnalisme de Mounier sur certains aspects. Il refuse de faire la personne la réalité métaphysique ultime. Et donc, alors que tout l'action a été une étude de la volonté, et tout d'un coup, on ne voit plus du tout ce champ de la volonté dans l'être et les êtres. Donc c'est à la fois le livre le plus objectif, et j'ai envie de dire le moins blondélien de ce point de vue-là, mais c'est aussi un livre éminemment blondélien d'un autre point de vue, c'est qu'il va montrer à chacun des paliers de l'être comment chaque être est insuffisant à se suffire à soi-même, ne peut pas, c'est que même la substance, au sens vraiment de l'être qui se suffit à lui-même, il n'y croit pas en quelque sorte, et donc à chaque fois il y a l'appel à un être supérieur. Et donc vous comprenez bien que le titre, L'être et les êtres, en fait ça aurait pu s'appeler Les êtres et l'être, c'est le chemin des êtres qui, dont on va dire à chacun des niveaux d'être, ils ne se suffisent pas encore vraiment jusqu'à ce que l'on soit arrivé à une source de l'être créateur évidemment, qui va être l'être qui va donner la consistance et la subsistance donc à chacun des êtres au niveau inférieur.
Peut-être une question maintenant sur la pertinence, l'actualité de cette pensée. Quel est selon vous le cœur blondélien, ce qu'il vous a apporté, ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire? Quelle est la substantifique moelle, si je puis dire, de la pensée de Blondel qui ne cesse de nous interpeller aujourd'hui?
Il y a une question qui traverse toute la pensée de Blondel et sur laquelle lui-même écrit, mais sans vraiment peut-être mesurer l'importance de ce qu'il dit, c'est ce que j'ai appelé donc la dualité. Blondel est un penseur des dualités. Alors il y a toujours l'action qui vient faire une synthèse, mais c'est une synthèse entre deux réalités qui demeurent, même après au moment de la synthèse, elles demeurent dans ce qu'elles ont de propre. Et donc, prenez que ce soit l'être et les êtres, que ce soit histoire et dogme, c'est un penseur du « et ». Alors, il va le voir dès le début, dès ses premières œuvres, mais que en disant, bah, on pense en relation au passé et au futur, on agit par rapport à un passé, par rapport à un futur. Donc, il est tout le temps polarisé entre des pôles qui les tirent et qui sont en eux-mêmes en partie inconciliables. Et il dit la pensée elle-même, mais en fait, l'être lui-même est pris par une tension entre deux courants qu'il appelle des éléments ou des manières de penser, qu'il appelle, alors c'est des termes, il aime bien créer ses propres termes, le noétique et le pneumatique. Alors, le noétique, du point de vue de la pensée, qu'est-ce que c'est ? Le noétique, c'est la pensée qui va penser par concept, par définition, qui va mettre des étiquettes sur les choses, qui va nous aider, parce que quand on emploie des mots, bah, faut bien que les mots désignent quelque chose, donc on a bien, si l'être est un pur flux, bah, les mots ne veulent plus rien dire, donc il faut bien qu'il y ait une espèce de permanence, il faut bien que les choses soient un peu figées, sinon on s'en sort pas, voilà. Ça, c'est le pôle noétique. Et puis, il y a ce qu'il appelle le pôle pneumatique, qui lui est plutôt le pôle du devenir, de la croissance, du mouvement, qui fait que les réalités ne sont jamais figées, elles sont en devenir, qu'il y a une part de fluidité, de particularité. Enfin oui, j'ai employé un même mot, par exemple, pour dire mille choses, mais en fait, si je dis le mot chaise, tout le monde comprend un peu que c'est une chaise, mais vous n'avez pas deux chaises qui sont absolument identiques. À chaque fois, il y a une particularité, etc. Voilà. Et donc ça, le pneumatique, lui, est plus intéressé aux particularités, alors que le noétique, lui, va plus s'intéresser à l'universel. Voilà. Et Blondel dit, vous avez des penseurs qui sont plus dans l'un ou plus dans l'autre. Voilà, les grands noms de la philosophie allemande, par exemple, c'est sûr, c'est des pensées très noétiques. Il dit, les théologiens de son époque sont des penseurs très noétiques. Et il va dire, tiens, c'est intéressant, par exemple, un Bergson va faire revivre un courant plus pneumatique. La poésie va plus donner droit à ce courant plus pneumatique. Après lui, il y aura des penseurs que lui aurait appelés pneumatiques. Le fort de la pensée de Blondel, ce n'est pas seulement de dire il y a ces deux réalités, c'est qu'il refuse de choisir entre l'une et l'autre. Alors il dit c'est tellement facile en fait d'être que dans l'un ou que dans l'autre. Vous avez un truc qui est beaucoup plus homogène. C'est très facile d'être cohérent avec soi-même. Soyez que de l'être, soyez que du devenir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est beaucoup plus facile de penser les choses ainsi. Mais dit-il, quand vous faites ça, vous avez posé un acte qui, avec votre intelligence, vous êtes fermé à, on va dire, la moitié du réel. Vous avez dit, bah, moi, je m'intéresse à ce réel-là, mais l'autre moitié du réel ne m'intéresse pas. Donc, en fait, vous avez fait abstraction d'une partie du réel. Par probité intellectuelle, c'est pas possible. Il faut embrasser la totalité du réel. Donc, il le dit du point de vue de la pensée, il va montrer comment est-ce que dans l'être lui-même, il y a ces deux polarités à l'œuvre. Et Blondel, même s'il est un penseur de la synthèse, il est éminemment un penseur de cette dualité. Et pour moi, c'est l'inexploité, l'inexploré de Blondel. Au cours de ma thèse, quand j'ai fini par mettre le mot polarité dans certains aspects de sa pensée, et je ne l'ai trouvé nulle part, en tout cas aussi explicitement dit, avec le mot de polarité, dans les commentaires. Et c'est évidemment, alors je pense, une question extrêmement actuelle. Alors, pour comprendre le précédent pontificat, certainement, pour comprendre le pontificat actuel, je l'imagine aussi. C'est-à-dire que quand vous lisez les textes du pape François, vous voyez qu'il y a des polarités à l'œuvre. Il en présente quatre dans Fratelli Tutti, en disant le réel est toujours pris dans des jeux de tension entre des pôles divers. Et je pense que la pensée de Blondel permet de comprendre ça. Et je pense que notre pape actuel, dont j'attends avec vous, évidemment, avec impatience, la parution de la première encyclique pour regarder un peu le fond, en tout cas, de ce qu'il veut nous dire. Mais je pense, de ce que je comprends déjà, et puis de son... Alors, s'il y a une chose dont il ne se cache pas, c'est l'influence de Saint-Augustin sur lui, n'est-ce pas ? Et Et Augustin, c'est éminemment aussi un penseur de ces dualités, en tout cas Blondel le comprend comme ça, un penseur de cette réalité entre la vie et l'être. Enfin voilà, il n'y a qu'à lire les confessions d'Augustin pour comprendre ce va-et-vient permanent entre la pensée et la vie. Et je pense que là, du coup, on a vraiment une matrice importante pour comprendre voilà, la pensée alors, du pape précédent, du pape actuel, je l'imagine aussi, nous le verrons. Et je pense que il faut réussir à comprendre cela aussi pour comprendre comment, dans l'Église aujourd'hui, il y a des courants de pensée divers, il y a des épistémologies différentes, et moi je me réjouis qu'il y ait ces épistémologies différentes. Ce qui me chagrine, c'est quand on a l'impression que l'on ne se comprend pas, et je pense que Blondel, par son exigence intellectuelle, peut permettre de rendre à certains qui auraient plus de mal avec la pensée duelle, et bien de comprendre ce que c'est que cette pensée par polarité, cette pensée par dualité, qui refuse de mettre une de se contenter, on va dire, de la définition d'une étiquette, mais qui dit il n'y a pas que ça dans la pensée, dans la vie, dans l'être, il y a aussi une autre manière d'aborder les choses.
Vous avez parlé de cette influence de Blondel, médiate évidemment, sur le pape François. Est-ce que vous pourriez nous tracer peut-être une esquisse de l'influence de la postérité blondelienne? Qui a-t-il inspiré comme figure importante? Quels sont peut-être les courants contemporains qui pourraient s'éclairer à sa lumière? En 1893, après l'action, on a dit, beaucoup en ont parlé, il a en quelque sorte fait école, même s'il y a aussi beaucoup de critiques, mais il a aussi rallié beaucoup de suffrages. Est-ce qu'il a eu vraiment une influence importante, déterminante? Dans quelle mesure?
Étonnamment, c'est un homme qui est philosophe, mais qui a eu plus d'influence chez les théologiens que chez les philosophes. C'est-à-dire qu'il y a, oui, eu des philosophes catholiques qui se sont revendiqués de Blondel, il y en a quelques-uns. Mais en réalité, quand on regarde son influence, elle était beaucoup plus chez les théologiens, notamment chez une génération de jésuites, que ce soit génération de Fourvière, on va dire Daniel Lou, Lubac, Gaston Fessard, Balthazar, Ranner à sa manière, mais s'il n'était pas Fourvière, qui sont les théologiens qui ont fait en grande partie le Concile Vatican II. Et donc la première marque de l'influence de Blondel, je pense, c'est dans le Concile Vatican II, dont par exemple le cardinal Congar, qui n'est pas jésuite dominicain, un des grands rédacteurs de ce concile aussi, dit le philosophe du concile, c'était Blondel. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il a marqué énormément des théologiens qui eux-mêmes ont marqué l'Église, non seulement par leur écrit, mais enfin par le fait qu'ils ont écrit les textes de l'Église que l'on appelle le Concile Vatican II. Donc je pense que là, on a vraiment une influence majeure de Blondel. On l'a, je dirais, de manière aussi chez un certain nombre de théologiens, alors plus contemporains, ça peut être des jésuites, mais pas que. Il a une grande influence chez des théologiens belges. Donc moi, je vous ai dit, j'étais à l'IUT à Bruxelles, hein, chez le père Albert Chapelle, qui est probablement des grands noms de la théologie du XXe siècle. On sait que c'est un des contributeur important du catéchisme de l'Église catholique, par exemple, dans les années 90. Voilà. Et lui était vraiment était marqué par Blondel complètement dans sa pensée. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour moi, je dirais, c'est plus son influence était un peu plus souterraine. C'est-à-dire, il y a Maritain, pour comparer les deux penseurs, beaucoup plus de gens ont dit « moi je suis maritanien », beaucoup plus de même des gens influents, importants dans l'Église. Alors que Blondel, je pense, a une influence plus de fond, mais moins repérable, avec moins un courant ou l'association des amis de Maurice Blondel. Vous avez, il y a plein de gens dedans, mais je pense que le plus important de ces personnes-là, par exemple, c'est Henrici, cardinal Poupart, en fait, par exemple, qui ont été des gens influents, mais c'est peu, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on a pu trouver chez d'autres, dans d'autres courants.
Peut-être pour finir, un conseil bibliographique, qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs pour entrer dans cette œuvre? Vous avez dit vous-même que vous aviez été quelque peu rebuté par vos premières lectures. Quelle est la porte d'entrée, ou peut-être qu'il y en a plusieurs portes d'entrée dans sa pensée? Est-ce que vous pourriez nous conseiller?
Je pense que le meilleur moyen de rentrer dans Blondel, alors sauf si on a déjà Bac plus 5, au moins on peut rentrer directement dans l'action, mais je sais que c'est difficile. Mais sinon, je pense que d'un point de vue proprement philosophique, il y a son livre qui s'appelle « L'itinéraire philosophique », qu'on ne trouve plus en librairie, mais qu'on peut trouver en accès libre sur Internet. L'itinéraire philosophique, un texte de 1928 où lui-même revient un peu sur sa pensée explicite, un peu ce qu'il a voulu faire, et donne un certain nombre de clés d'interprétation. Après ça, vous avez des livres qui ont été écrits sur lui, j'en souligne deux. Donc il y en a un qui s'appelle « Prier 15 jours avec Maurice Blondel », qui est bien, qui est simple, on peut le prendre à la chapelle, enfin voilà, c'est un peu philosophique, mais on peut le prendre à la chapelle, qui souligne beaucoup le lien entre Blondel et l'Eucharistie. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est évidemment, Blondel est évidemment un homme de l'Eucharistie, et donc ça l'aide bien. Et puis plus récemment, Marie-Jeanne Coutagne a fait paraître une biographie aux éditions Parole et Silence de Blondel, et qui à mon avis est aussi une belle manière assez simple de rentrer dans la pensée de Blondel.
Père Nathanaël Garrigue, merci beaucoup pour cet entretien. Merci pour tout ce que vous nous avez appris sur Blondel. Nous avons évidemment hâte de lire votre thèse lorsqu'elle sera publiée. Chers auditeurs, j'espère que voilà, vous avez pu entrer autant que possible dans cette pensée, inclassable, comme vous avez pu le constater, en même temps riche de virtualité, riche d'intérêt. Père Nathanaël Garrigue, merci beaucoup. Au revoir.
Merci.
Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans un mois. À bientôt.
Vous venez d'entendre Le Monde de la Philosophie dirigé par Élie de Thoras, émission préenregistrée le 20 mai 2026 et diffusée pour la première fois lundi 25 mai 2026 de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse de toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.